Il est 22h et vous écoutez Europe 1. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
Il n'y a ce soir pas de circulation du virus sur le territoire national.
L'épidémie de coronavirus, le ministre de la Santé se veut donc rassurant. Plus aucun patient n'est aujourd'hui hospitalisé dans notre pays et la France surveille de très près la situation, bien sûr en Italie. On sera d'ailleurs dans ce journal dans le nord de l'Italie, dans l'une des villes confinées, mais aussi sur la Côte d'Azur où certains verraient d'un bon œil la fermeture de la frontière. Ce n'est pas d'actualité. On verra aussi avec Didier Hameau de boursier.com que les bourses mondiales plongent littéralement. Elles sont très inquiètes par les conséquences économiques de cette épidémie. En Allemagne, une voiture a foncé sur la foule lors d'un défilé du carnaval dans une petite ville du centre du pays. Pour une raison pour l'instant inconnue, il y a une trentaine de blessés, dont certains grièvement.
Plusieurs témoins m'ont dit qu'il a foncé volontairement sur la foule.
Et on sera en direct dans ce journal avec Hélène Kohl, notre correspondante en Allemagne. Le producteur américain Harvey Weinstein, reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol, mais les jurés n'ont pas retenu le chef d'agression sexuelle prédatrice qui lui faisait risquer la perpétuité. La justice britannique examine la demande d'extradition de Julian Assange vers les États-Unis, le fondateur de WikiLeaks qui risque lourd pour avoir publié des documents confidentiels.
L'avocat de Julian Assange a montré la dimension incontestablement politique de cette demande d'extradition.
Et puis à la fin de ce journal, on ira dans le Finistère et on vous expliquera comment le mystère du rocher de Plougastel a été finalement résolu. La météo, une nouvelle perturbation arrive par le nord demain. Ce sera gris, venteux, pluvieux, quasiment pour tout le monde. Ne manquez pas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et comme chaque soir, 22h20, votre rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir le co-gérant de Lidl, Michel Biérot.
Europe 1.
Et cette inquiétude qui grandit donc autour du coronavirus. D'un côté, l'OMS qui affirme que le monde doit se préparer à une éventuelle pandémie. Un mot que les spécialistes refusaient jusqu'à présent de prononcer. De l'autre, ces cas qui se multiplient, en particulier en Italie où depuis ce week-end, plusieurs villes du nord du pays sont en situation de confinement après la mort de 7 personnes puisque le bilan s'est encore alourdi ce soir. La 7e victime est un homme de 62 ans, originaire du sud de Milan. Il était dialysé, il souffrait de plusieurs pathologies chroniques. Alors on va tout de suite retrouver l'envoyé spécial d'Europe 1, Roman Hockey. Roman, vous êtes à Codogno, c'est l'une de ces communes sous cloche, 15 000 habitants, tout est aujourd'hui figé.
Oui, à Codogno, les rideaux métalliques des commerces sont restés baissés aujourd'hui. Impossible par exemple de trouver des masques. Seul un petit supermarché a rouvert cet après-midi. Le magasin a été pris d'assaut. Seul endroit pour acheter de la nourriture. Mauro arrive à l'entrée essoufflé.
We don't know.
Je ne sais pas combien de temps le confinement va durer. Alors je préfère faire des provisions. D'habitude, on voit ça dans les films. Mais là, c'est vraiment dingue de voir Codogno dans une telle atmosphère.
Une ville plongée dans le silence où l'on n'entend que les sirènes de la sécurité civile. À l'intérieur des camions, des agents protégés de la tête aux pieds. Même avec un masque, j'ai d'ailleurs du mal à aborder les habitants, méfiants. Ils s'interrogent sur ma présence malgré les barrages filtrants. Comment avez-vous fait pour rentrer? Peut-on sortir de la zone confinée? Andrea ne se fait pas d'illusions.
C'est vraiment angoissant de rester ici, sans aucune chance de sortir, sans liberté de mouvement. Et puis personne ne dit rien. Mais bon, on peut avoir le virus et si on sort, on peut infecter quelqu'un d'autre. Donc il vaut mieux qu'on reste ici.
La plupart des habitants n'ont d'ailleurs pas essayé de franchir ces barrages. C'est peine perdue, m'a confirmé une source proche de la mairie. Désormais, plus personne ne peut sortir.
Roman Hockey, envoyé spécial d'Europe 1 à Codogno en Italie. La France a émis une série de recommandations pour les personnes qui reviennent des deux régions italiennes touchées, la Lombardie et la Vénétie. Elle leur demande d'éviter toute sortie non indispensable, de prendre leur température deux fois par jour et de privilégier le télétravail. Les enfants de retour de ces régions ne doivent pas être envoyés à la crèche, à l'école, au collège ou au lycée. Recommandation qui était déjà en vigueur pour les retours de Chine ou de Corée du Sud. Par ailleurs, le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui tenait son point presse ce soir, s'est voulu plutôt rassurant.
Il n'y a ce soir pas de circulation du virus sur le territoire national. Aujourd'hui, tout est mis en place pour freiner l'introduction du virus sur le territoire. Par le dépistage des cas possibles notamment, nous avons augmenté considérablement nos capacités diagnostiques, comme je le disais. Par l'isolement des malades, et je vous annonce qu'il n'y a ce soir plus aucun malade hospitalisé en France. Le dernier patient qui était hospitalisé à Lyon est guéri, n'est plus contagieux et a pu rentrer chez lui. Si demain le virus commençait à circuler en France, c'est-à-dire s'il y avait des transmissions que nous n'arriverions plus à expliquer avec des difficultés à tracer les personnes contactent. Alors nous pourrions être amenés à prendre des décisions pour atténuer les effets d'une épidémie.
Le ministre de la Santé au micro Europe 1 d'Ève Roger, Olivier Véran, qui se rendra demain à Rome, où il retrouvera d'autres ministres européens de la Santé pour évoquer les mesures à prendre en cas d'extension de l'épidémie. Alors face à cette inquiétude qui grandit, faut-il davantage contrôler les frontières ? La question se pose, en particulier là où vous vous trouvez, Frédéric Michel, puisque vous êtes sur la Côte d'Azur, non loin de la frontière italienne.
Alors, dans les Alpes-Maritimes, aucun cas n'a pour l'instant été détecté. Le préfet se veut rassurant. Contrairement à ce que demandaient les élus, il n'a pas déclenché de plan d'urgence. Il assure que des réunions quotidiennes seront organisées avec les spécialistes de santé. Une cellule d'information pour renseigner la population a été mise en place et le CHU de Nice est prêt à accueillir les patients atteints du Covid-19. Le préfet Bernard Gonzalez.
Nous allons également équiper cet établissement pour réaliser des diagnostics et faire des levées de doutes sur les situations rencontrées. Nous allons également mettre en place un système de deuxième ligne avec des établissements tout autour de Nice susceptibles d'accueillir les malades une fois traités.
Très critique depuis plusieurs heures sur la gestion de la crise par le gouvernement, le député niçois Eric Ciotti en attend plus des autorités.
Détection de fièvre systématique dans les aéroports, dans les ports, possibilité de le faire à la frontière. Bon, on n'a même pas les appareils aujourd'hui. Je crois que le gouvernement a traité un peu tout cela avec une grande légèreté depuis quelques jours.
Concernant le renforcement du contrôle des frontières, tout le monde s'accorde à dire qu'il ne s'agit pas d'une priorité. À Menton, la circulation entre les deux pays a donc lieu normalement et pour l'instant, aucun des grands événements de la région, la fête du citron ou le carnaval de Nice, n'a été annulé.
Frédéric Michel, à la frontière franco-italienne pour Europe 1, et notez que pour l'instant, la Commission européenne ne souhaite pas le rétablissement des contrôles aux frontières à l'intérieur de l'Union européenne. Par ailleurs, aucune décision n'a encore été prise pour le déplacement des supporters de la Juventus à Lyon, mercredi pour le 8e de finale de la Ligue des champions entre les deux équipes. Et puis, plombées par les craintes de cette épidémie, les bourses mondiales dévissent, moins 3,94% pour Paris, moins 5,43% pour Milan. Les investisseurs détestent par-dessus tout l'incertitude et ils redoutent l'impact sur l'économie, en particulier l'automobile, qui chute ce soir. On y reviendra en détail à la fin de ce journal avec Didier Hamot de Boursier.com.
Europe 1, Isabelle Millet.
Et l'autre grand titre de l'actualité aujourd'hui, c'est cette voiture qui a foncé dans la foule en Allemagne cet après-midi en plein défilé de carnaval dans une petite ville du centre du pays. Il y a une trentaine de blessés, dont certains grièvement, parmi eux 10 enfants. On vous retrouve, Hélène Kohl, vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Allemagne. Bonsoir Hélène.
Bonsoir.
Est-ce qu'on en sait plus ce soir, Hélène, sur ce qui s'est passé dans cette petite ville d'Allemagne ?
Alors on sait que le conducteur de cette Mercedes a foncé délibérément sur la foule. Essentiellement, il y avait des enfants à cet endroit de la ville et à cette heure-là. Les témoins cités par le porte-parole de la police disent même qu'il a accéléré au contact des corps projetés par son véhicule. La voiture a roulé sur 30 mètres parmi la foule. Le bilan est lourd, vous l'avez dit, 30 blessés, certains très gravement. L'homme a pu être immédiatement arrêté par la police qui se trouvait déjà sur place, comme c'est toujours le cas pour ce genre de festivités. D'ailleurs, la route était bel et bien barrée par la police, mais le conducteur a contourné le dispositif avant de s'engager à grande vitesse vers le cortège du carnaval. C'est un Allemand de 29 ans, originaire de la commune, connu de la police pour des problèmes d'ordre public et des faits de droit commun. Un homme souvent alcoolisé et agressif. Ce soir, il se trouve dans un état qui ne permet pas son interrogatoire, précisent les enquêteurs. Son domicile a été perquisitionné et il y a eu une deuxième arrestation. La personne est interrogée actuellement. La police cherche à établir si c'est un complice ou un simple témoin.
Merci beaucoup Hélène Kohl pour ces toutes dernières infos. Hélène Kohl, en direct, correspondante d'Europe 1 en Allemagne. Aux États-Unis, Harvey Weinstein, reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol, procès emblématique du mouvement MeToo. Le producteur de cinéma sera fixé sur sa peine d'ici quelques jours. Vous avez suivi cette audience pour Europe 1, Loubna Anaki.
Sous le choc, à voix basse, Harvey Weinstein clame son innocence à l'annonce du verdict. L'ancien homme fort d'Hollywood a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle sur l'actrice Jessica Mann et l'assistante de production Mimi Alehi. En revanche, les circonstances aggravantes de comportement de prédateur n'ont pas été retenues. Il échappe donc à la prison à vie, même s'il encourt un minimum de 5 ans. Après l'annonce du verdict, Harvey Weinstein a été placé en détention où il devra attendre l'annonce de sa peine prévue le 11 mars prochain. Les avocats du producteur américain américains ont tout de suite fait savoir qu'ils allaient faire appel. Pour eux, Harvey Weinstein a payé en raison de sa notoriété et de la médiatisation de cette affaire. L'homme était devenu, depuis 2 ans, l'ennemi symbolique du mouvement MeToo. Mouvement qui ce soir salue le début d'une nouvelle ère de justice pour les femmes. Même réaction du côté des avocats des victimes d'Harvey Weinstein. Gloria Allred parle d'un message fort adressé à tous les auteurs de ce genre de crime. À New York, Loubna Naki pour Europe 1.
En Grande-Bretagne, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, était devant la justice aujourd'hui qui doit décider ou non de l'extrader vers les États-Unis. L'Australien accusé d'avoir mis au jour des centaines de milliers de documents confidentiels de l'armée américaine. Johanna Chabas, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Londres.
Oui, les Américains ont commencé la séance ce matin en disant que les révélations de Julian Assange sur les guerres d'Irak et d'Afghanistan avaient mis en danger la vie de leurs agents, qu'ils auraient pu être torturés ou tués. Une accusation basée sur aucun fait, selon la défense du lanceur d'alerte. John Rees, à la tête de l'association N'extradez pas Julian Assange, a fait une déclaration cet après-midi devant la foule de soutien au fondateur de Wikileaks.
L'avocat de Julian Assange a montré la dimension incontestablement politique de cette demande d'extradition, rappelant qu'elle avait été abandonnée sous Obama, mais relancée avec Trump, qui lui fait la guerre contre le journalisme.
Après les Américains, c'est au tour de la défense de Julian Assange de prendre la parole. Selon elle, les accusations américaines sont abusives et ses avocats disent avoir des preuves comme quoi le fondateur de Wikileaks et son équipe ont été espionnés par les forces américaines, qu'elles auraient même pensé le faire empoisonner ou kidnapper. La demande d'extradition va être examinée jusqu'à vendredi et à nouveau pendant 3 semaines en mai. Si elle était acceptée, alors Julian Assange risquerait aux États-Unis jusqu'à 175 ans de prison.
Johanna Chabas, correspondante d'Europe 1 à Londres. En France, l'actualité judiciaire, c'est le report du procès Fillon. Il débutera finalement après-demain. Les juges ont accepté la demande des avocats de la défense, avocats qui voulaient soutenir la grève de leurs confrères contre la réforme des retraites. À propos de réforme des retraites, justement, il aura fallu 8 jours de débat aux députés pour adopter enfin le premier des 65 articles du projet de loi de cette réforme. Et puis ce pourrait être le titre d'un roman policier, Le mystère du rocher de Plougastel, ce rocher près de Brest dans le Finistère sur lequel figurent de bien étranges inscriptions et trop peu d'indices pour en trouver une signification. Eh bien le maire avait décidé de lancer un concours pour tenter de les déchiffrer et bingo, Jean-Jacques Herry, le rocher a parlé.
Oui, il a révélé la clé d'un mystère celtique vieux de plus de 230 ans. Les signes kabbalistiques gravés dans le rocher étaient une transcription phonétique de la langue bretonne. C'est un spécialiste en études celtiques qui l'a découvert. Et ce que raconte la pierre, c'est une histoire de mer, une histoire triste et émouvante, mêlant amitié et naufrage en rade de Brest. Pour comprendre, il faut remonter en 1786, explique le maire de Plougastel, Dominique Cap.
Un marin de la marine française qui s'est noyé dans la rade de Brest au large de Plougastel. Et donc c'est un collègue à lui qui, pour lui rendre hommage, a gravé cette histoire. Alors que dit le texte exactement? Je vais vous le dire. Serge est mort quand mal exercé à ramer. L'an dernier, son bateau fut retourné par le vent. Il est temps de donner, à partir du large, l'hommage du brick de sa compagnie 1787.
Le noyé s'appelait Serge Lebris, le graveur de pierre Grégoire Artelot. Et la prochaine étape pour la mairie de Plougastel sera de mener des recherches à propos du parcours de ces deux hommes du XVIIIe siècle. Cela permettra peut-être de réussir à traduire les 20% du texte qui continuent pour le moment de confier leur mystère à la pierre.
Un récit signé Jean-Jacques Herry pour Europe 1. Un mot de foot, on parlait tout à l'heure de l'épidémie de coronavirus. Eh bien, on apprend à l'instant que plusieurs matchs du championnat d'Italie de foot se joueront à huis clos ce week-end. C'est bien sûr une conséquence directe. Et puis, Thiago Silva, forfait pour le match retour contre Dortmund. En Ligue des Champions, il a contracté une lésion du biceps fémoral de la cuisse lors de la victoire contre Bordeaux hier soir. Le club parisien déjà privé de Verratti et de Thomas Meunier qui sont tous les deux suspendus. En rugby, la France gagne un rang au classement mondial. Les Bleus de Fabien Galthié sont désormais 5e. Ils passent devant le Pays de Galles qu'ils ont battu samedi dernier. Le 15 de France, qui on le rappelle, est toujours invaincu dans le tournoi des 6 nations et donc toujours en lice pour le Grand Chelem. On jette un œil tout de suite sur la météo avec vous Anissa Haddadi et pour demain, changement de temps.
Oui, effectivement, le temps change, Isabelle. Demain, avec une perturbation qui traverse la France. Alors, elle arrive dès cette nuit avec de nombreux nuages. Et demain matin, sur une diagonale allant de la Gironde jusqu'à l'Alsace, eh bien, nous aurons des précipitations accompagnées de vent jusqu'à 60 km/h dans les terres. Dans la journée, cette perturbation, elle se décale vers le sud-est pour demain après-midi toucher l'Occitanie, le Massif central, le Languedoc-Roussillon, la vallée du Rhône et les Alpes, avec dans toutes ces régions des pluies soutenues et sur les reliefs des chutes. chutes de neige à partir de 1500 mètres dans les Alpes et 1800 mètres sur les Pyrénées. Là aussi, le vent d'ouest souffle dans ce secteur jusqu'à 70 km/h. À l'avant de cette perturbation sur le littoral méditerranéen et la Corse, le ciel est voilé, mais le temps reste sec et le vent d'ouest souffle toujours. Et puis à l'arrière, c'est un ciel de traîne qui se met en place avec sur le nord et le nord-ouest une journée plutôt mitigée, un ciel partagé entre nuages et éclaircies et quelques averses. Les températures, 0 à Manosque, 2 pour Grenoble, 4 à Clermont-Ferrand et Lyon, 8 pour Paris. Dans l'après-midi, ça baisse. Hein, demain, il fait plus frais. 8 à 12 degrés sur la moitié nord, 10 à 15 sur la moitié sud. Et il fait toujours très doux au bord de la Méditerranée avec 15 à 21 degrés.
La météo signée Anissa Haddadi. Europe 1. Et dans un tout petit instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamo de boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le co-gérant de Lidl, Michel Biérot. A tout de suite sur Europe 1. Il est 22h16, merci d'écouter Europe 1 comme tous les jours à cette heure-ci. On s'intéresse à la bourse avec vous, Didier Hamo de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Il n'y a pas de quoi rire ce soir hein, parce que ça va mal. Hein. Wall Street chute notamment lourdement avec cette crainte d'assister à une pandémie mondiale de coronavirus. Pandémie, c'est une crainte que laisse planer désormais l'OMS.
Oui, et Wall Street accuse le coup. La baisse est très forte sur la crainte d'assister effectivement à une propagation rapide de l'épidémie au niveau mondial avec toutes les conséquences sur l'économie internationale. Ça donne ce soir un Dow Jones en baisse de 3,5%, un peu plus, même 3,56%. Le Dow Jones à 27 961 points et le Nasdaq qui perd même 3,71%, 9 221 points. La situation en Corée du Nord inquiète beaucoup, celle en Italie évidemment, parce que l'Europe est concernée. Les groupes exportateurs les plus exposés à la crise rechutent lourdement à Wall Street ce soir, à commencer par Apple qui perd 5% pratiquement, $298. Toutes les valeurs internationales sont plombées comme Intel, moins 4%, comme Cisco, moins 5%, Microsoft, moins 4,3%. On a IBM aussi, moins 2,2%. C'est presque un moindre mal pour IBM. Le pétrole aussi rechute de 4%, $56 le baril et ça donne Exxon en baisse d'1%. Il y a quand même un grand gagnant, c'est l'or qui joue son rôle de valeur refuge. $1,672 l'once, l'or est au plus haut depuis le début 2013, depuis 7 ans. L'euro aussi remonte un petit peu, 1,0850 face au dollar.
Et c'est la situation en Corée du Sud, hein. C'est ça que vous vouliez dire, qui inquiète. Parce que la Corée du Nord, on ne sait pas grand-chose encore sur eux.
C'est vrai.
La bourse de Paris, elle, n'a pas été épargnée avec une baisse de près de 4% quand même pour le CAC 40.
3,94%, forte baisse, 5 791,87 sur le CAC 40. Cette fois, la propagation du coronavirus a précipité en forte baisse les valeurs les plus exposées aux conséquences économiques de l'épidémie. Alors le secteur du tourisme, évidemment, a le plus souffert avec une chute de Pierre et Vacances, moins 14%, une dégringolade du groupe Accor Hôtel, moins 5,5%, et puis le compartiment des transports aussi est lourdement pénalisé avec Air France KLM, moins 8,5%, 8,29€ pour Air France ce soir. Le secteur du luxe aussi, qui était bien monté ces derniers mois, corrige nettement. Kering, moins 5%, LVMH, moins 5% aussi. Et puis les valeurs pétrolières et parapétrolières, avec le pétrole qui redescend. Eh bien, toutes ces valeurs baissent fortement de l'ordre de 4 à 8% pour CGG. Vallourec, moins 4%, Technip, moins 3% ce soir.
Chute quasi générale avec une exception du jour quand même, Didier, le titre Biomérieux qui évolue, lui, proche de ses sommets.
Oui, puisque le groupe est un spécialiste donc du médical et en particulier hein, du créneau du diagnostic. Alors c'est un créneau très recherché bien sûr en ce moment. Biomérieux est au plus haut pratiquement de son histoire, 95,50€, proche de ses sommets historiques. Depuis le début de l'année, Biomérieux a gagné plus de 20%. Le titre s'en sort bien donc ce soir à 95,50€. Sur les autres places financières, ça baisse partout. Le tarif est le même à Francfort, moins 4%, à Bruxelles, moins 4% aussi, à Madrid, à Amsterdam, pratiquement 4% de perdu. Milan, la bourse de Milan, chute même de 5,4% avec la situation italienne qui inquiète beaucoup les investisseurs. On rappelle le CAC 40 en baisse, moins 3,94%, 5 792 points.
Eh bien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon, pas très réjouissant. Didier Hamo, rédacteur en chef de boursier.com, on vous dit à demain.
À demain.
Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité éco. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir le co-gérant de Lidl.
Bonsoir Michel Biérot.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes un des co-gérants de Lidl. Alors, c'est le salon de l'agriculture qui vient d'ouvrir. Vous étiez jusque-là la seule chaîne de distribution présente au sein de l'agriculture. Petite nouveauté cette année, parce que vous avez un voisin qui s'appelle Intermarché. Déjà, pourquoi vous y retournez chaque année. Ça sert à quoi, le Salon de l'agriculture ?
Eh ben, c'est toujours pour encore plus renforcer les liens avec le monde agricole. C'est la sixième année consécutive que nous y rendons avec un grand stand. La première année en 2015, ça a été chaud, hein, pour utiliser les bons mots. Aujourd'hui, c'est les éleveurs qui en partie tiennent notre stand.
Avec des personnels Lidl, je crois que c'est la spécificité de votre stand.
Exactement, il y a 100 salariés à Lidl qui se relaient tous les jours et qui tiennent le stand. Ça, c'est une grande force parce que forcément, il y a une grosse animation, il y a une grosse ambiance. Les éleveurs sont avec nous et c'est d'une, pour une fois de plus, bien ancrer notre positionnement et le fait qu'on soutient le monde agricole. Et deux, c'est pour renouveler des contrats et pour en trouver des nouveaux. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas une organisation syndicale agricole ou pas plus les politiques qui nous trouvent des groupements, parce qu'il me faut des groupements d'éleveurs, des organisations d'éleveurs ou des associations pour réaliser ces fameux contrats tripartites.
De façon très concrète, vous en avez encore signé un en début d'après-midi, vous allez en signer plusieurs pendant toute la durée de Salon de l'agriculture. Vous travaillez avec combien de producteurs qui sont sûrs du coup d'être rémunérés un poil moins mal que s'ils seraient sans passer ce contrat ?
Je dirais même un poil beaucoup mieux que s'ils n'avaient pas ces contrats.
Mais ça reste très limité comme revenu pour eux.
Vous pouvez leur demander, non ? Je pense que quand vous rémunérez une limousine à plus de 4,80 €, je peux vous dire qu'aujourd'hui, le marché est plutôt en dessous de 3,80 €. Donc, on est à plus d'un euro supplémentaire au kilo, ce qui est énorme pour un éleveur.
Mais combien de producteurs, du coup, aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on est à plus de 5000 producteurs qui sont engagés dans une tripartite Lidl, soit sur le lait, soit sur le porc, soit sur le bœuf.
Et par rapport à ce que vous vendez dans vos magasins Lidl en France, ça représente quelle proportion ? Parce que 5000, c'est très peu en termes de nombre.
C'est très peu sur les 452 000 agriculteurs français, nous sommes tout à fait d'accord. Cela représente en volume à peu près sur les trois élevages, donc lait, porc, bœuf, ça représente 20% de nos volumes. Mais pourquoi ? Je vais juste vous expliquer pourquoi. Moi, j'aimerais bien aller au-delà. Sauf qu'à un moment donné, une fois de plus, entre moi et l'éleveur, il y a un industriel. Et il faut que l'industriel soit tout aussi, ou ait la même volonté que moi, de rentrer dans ces démarches tripartites.
C'est pour ça que vous signez des accords tripartites.
Tripartites. Éleveur, industriel, Lidl. Donc si l'industriel n'est pas d'accord...
C'est la faute des industriels ? Il n'y en a pas assez qui sont prêts à toper avec nous ?
Clairement, il n'y en a pas assez qui sont prêts à toper avec nous. Alors ça change. Hein. Encore hier, j'ai un grand industriel qui m'a dit « Tiens, on pourrait peut-être faire une tripartite » alors que ça fait 5 ans qu'il me dit « Clairement, jamais de la vie, on fera une tripartite ». Donc ça change, ça va prendre du temps, mais je pense que les mentalités sont en train d'évoluer. Et on va y arriver. Mais vous avez raison, ce n'est pas suffisant, 20%. Moi, je veux plus. Pour ça, il faut que les industriels, alors il faut peut-être les y obliger, hein, peut-être par le législateur.
C'est un appel que vous lancez aux politiques.
Exactement.
Parce que je lisais une récente interview de vous, où vous disiez, c'était bien gentil la loi Egalim, donc la loi qui devait aider à réguler l'alimentation. Je les ai suivis, on les a accompagnés, mais c'est aujourd'hui une coquille vide. Ça veut dire que ça a servi à rien ?
Je pense que ça a servi au moins, et il faut lui laisser le mérite, ça a servi à faire bouger les lignes, mais ça n'a pas servi à ce qu'elle était prévue.
Ça n'a pas servi à mieux rémunérer les différentes
parties. Exactement. Mais pourquoi ? Parce que la loi Egalim, moi je dis que c'est une belle initiative, mais sans transparence et sans volonté de toute la filière, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, ça bouge. J'ai bon espoir. Et après, l'autre façon de faire augmenter cette part de contrat tripartite, c'est tout simplement d'éduquer ou de faire beaucoup de pédagogie vis-à-vis des consommateurs, parce qu'eux aussi ont un rôle à jouer.
Nous en payant 3, un petit peu plus.
D'une en payant un petit peu plus.
Parce que typiquement, sur les 20% de produits dont vous nous parlez dans vos magasins Lidl, j'imagine que c'est un poil plus cher que ce que vous pourriez faire si ces contrats n'étaient pas signés.
C'est un poil plus cher, tout à fait. Une entrecôte, c'est 3 euros plus cher du kilo. Par rapport à une entrecôte qui n'est pas en tripartite et où l'éleveur n'est pas correctement rémunéré. Donc,
mais
oui, c'est un poil plus cher.
Le consommateur suit, y compris dans vos magasins où on vient en partie chez vous parce qu'on veut gérer peut-être de façon plus juste son budget.
Il faut juste lui expliquer la démarche. Et donc, c'est à nous de faire de la communication sur le lieu de vente. Et les éleveurs nous aident en venant faire des animations dans les magasins. Et quand ils font une animation, je peux vous dire qu'on multiplie par 15, par 20, les volumes de vente sur la seule journée. Donc ça montre bien que le consommateur est prêt, il faut juste bien lui expliquer.
Si on regarde plus globalement le bio, cette fois, ça représente quoi chez vous, chez Lidl ? Parce que vous faites partie de ces enseignes qui sont également en pointe là-dessus aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, le bio, c'est 20% de nos 1800 références et ça va être amené à évoluer.
À évoluer, ça veut dire à progresser.
À progresser, tout à fait. Ce 20%, on va avoir, on a aujourd'hui, rien que sur le fruit et légumes, on a à peu près 25 références bio sur 110 références dans le magasin. Ça va évoluer, mais là aussi, il faut que le monde agricole évolue. Donc, il faut que nous, distributeurs, nous aidons à travers des augmentations de prix, les agriculteurs, pour la transition au bio. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de bio en France.
Nos auditeurs ne le savent peut-être pas, hein, seulement 10% des exploitations agricoles sont passées au bio.
C'est ça.
On n'a pas assez de bio, on importe encore aujourd'hui quasiment un tiers de tout ce dont on a besoin en bio. Alors, il y a eu un plan gouvernemental, là aussi, ambition bio, mais tout le monde dit que l'ambition est là, mais les moyens ne sont pas là, donc ça ne sert strictement à rien.
Un éleveur ne peut pas passer du jour au lendemain en bio. Donc il faut le soutenir, il faut lui financer cette transition, en tout cas l'aider à financer cette transition. Tout simplement en signant des contrats, en payant un petit peu plus cher aujourd'hui le conventionnel que nous livre l'agriculteur, pour que demain, il puisse nous livrer du bio.
Merci beaucoup Michel Béraud, bon salon de l'agriculture à vous. Vous
Merci
êtes l'un
beaucoup.
Des co-gérants de Lidl. On se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci à vous et à demain, effectivement, Emmanuel Duteil. Et dans un instant, on va jeter un œil sur les unes de vos quotidiens, voir quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant. A tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Et sans surprise, la plupart de vos journaux ont choisi de titrer sur le coronavirus, avec à chaque fois, sur chacune de ces unes, ces photos, ces visages porteurs d'un masque blanc de protection. Coronavirus, comment la France se prépare, s'interroge Libération. Les autorités françaises sont mobilisées pour faire face à l'arrivée de ce Covid-19 qui a déjà fait au moins 7 morts en Italie. L'Europe gagnée par la peur du coronavirus, pour le Figaro. Comment l'Europe fait face, titre le journal La Croix. Après la brusque multiplication des cas en Italie, les pays européens renforcent leur dispositif de prévention. Coronavirus, l'économie mondiale ébranlée, écrit le journal L'Opinion. La dépendance accrue du secteur manufacturier à l'égard d'une Chine plus interconnectée que jamais avec les circuits mondiaux entraîne des pénuries partout sur la planète. Pandémie, le gros mot est lâché et il fait peur, écrit Denis Domin dans La Nouvelle République. Or, la peur mobilise. Depuis 4 jours, l'Italie s'organise énergiquement et plutôt bien jusqu'ici. Vieux réflexe d'une presqu'île où tous les fléaux sanitaires de l'humanité ont accosté ces 2 derniers millénaires. Tandis que le journal Les Échos revient quant à lui sur ces marchés qui dévissent en raison de cette crise. On en parlait il y a quelques instants avec Didier Hameau de Boursier.com. Les bourses mondiales sont en très forte baisse. Le pétrole et l'euro décrochent. L'épidémie ravive les risques de récession en Italie. Pékin, pendant ce temps-là, essaye de remettre l'usine du monde au travail. Virus masqué, écrit Pascal Ratineau dans le journal La Montagne. Si l'Organisation mondiale de la santé se refusait jusqu'alors à parler de pandémie mondiale, le mot a été lâché aujourd'hui. Il est question pour l'instant de risque de pandémie. Le pire n'est jamais sûr, écrit Laurent Baudin dans l'Alsace. Ainsi donc, la propagation du coronavirus hors de Chine, notamment en Corée du Sud, en Iran, en Italie, est évidemment très inquiétante du fait de l'éclatement géographique, mais aussi de l'impossibilité de réellement déterminer la source d'infection dans ces pays-là. L'avancée du Covid-19 à l'échelle de la planète nécessite des précautions pour éviter une pandémie mondiale. Malgré le développement à grande vitesse de ce coronavirus, écrit le journaliste, il est essentiel de ne pas céder à la panique. Ce virus est agressif, mais il est encore loin d'avoir provoqué autant de morts qu'une grippe devenue banale dans les sociétés modernes, excepté bien sûr pour les personnes âgées, les populations à risque dans un cas comme dans l'autre. Et voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et à 22h30, tout pile, je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute d'Europe 1. Vous êtes en compagnie d'Olivier Delacroix pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle. Voyez très heureux de vous revoir.
Également. Je vous dis à tout de suite d'ailleurs, dans une demi-heure pour
D'accord,
le flash.
À tout de suite.